Salut, très heureux de vous retrouver sur le plateau de Talk Cardiagon. Comme chaque lundi, il est bel et bien présent sur ce plateau. C'est notre consultant de choc, Nicolas Putebois. Salut Nico.
Salut Razik, salut à tous.
Avec une chemise, Nico.
Oui.
Le sourire.
Oui, aussi.
Pour la coupe avec du gel.
Toujours, et toujours pas rasé.
Toujours pas rasé pour évoquer l'actualité de l'Olympique Lyonnais. On accueille un invité, c'est Mehdi Ghana, qui est le vice-président du Vénitieux FC.
C'est ça.
Voilà. Et puis responsable aussi du pôle élite.
C'est ça.
Parce qu'il y a pas mal de jeunes joueurs.
Il y a un gros vivier à Vénitieux.
Un gros vivier de jeunes joueurs justement à Vénitieux. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci.
Et fidèle supporter aussi
Merci
de l'Olympique Lyonnais.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça.
Parce qu'on se croise de temps en temps au stade. Salut les gones, les larmes hier tellement c'était beau. Voilà le premier commentaire posté sur le YouTube d'olympiqueetlyonnais.com. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. On est en direct sur toutes les plateformes, sur X, ex-Twitter, sur YouTube, sur Twitch, de partout, dans le monde entier. Oui. Hein, Nico, puis de bois.
Dans le monde entier.
Dans le monde entier.
Et même au-delà.
Et même au-delà, effectivement, parce qu'on a eu un petit commentaire. On va essayer de le retrouver. C'est Chelito. Chelito qui nous a dit qu'il nous faisait un petit coucou de la station spatiale internationale. Donc, bonne émission à tous. Et puis, un autre message. Un bonjour depuis la Lune, où on fête encore la victoire de l'Olympique Lyonnais. Voilà, messieurs. Le football que l'on aime, Nico Puy-de-Bois.
Bien sûr.
Hein, le football que l'on aime. Je crois qu'on va tous évoquer ce match. Ce magnifique match que tout le monde a assisté, je l'espère en tout cas. J'espère que vous n'avez pas raté cette prestation de l'Olympique Lyonnais, de cette équipe aussi brestoise, parce qu'il faut être deux pour faire un grand match. Il est l'heure, il est temps de passer au premier thème de TKYDG. Débute un spectacle total, une fin de match électrique, une victoire lyonnaise, le football que l'on aime, Nicolas Puy-de-Bois.
Oui. On a vu du foot, on a vu de l'intensité, on a vu des buts, on a vu un peu de bagarre, on a vu ça s'est chicoté un peu. ouais, c'est le foot qu'on aime. Et surtout, un vrai état d'esprit de la part des Lyonnais qui menaient 3-1, ont eu les ressources nécessaires pour, encore une fois, créer la décision à leur faveur, donc revenir dans ce match et le remporter. Quelques faits de jeu, forcément, mais
Bien
ça
sûr.
Fait partie du foot aujourd'hui. En tout cas, j'aime l'état d'esprit que dégage cette équipe.
On aime ça, Mehdi, lorsqu'on
voit
un tel match.
C'est ça, un vrai combat de boxe. Hein, ils sont rendus coup pour coup, du suspense, puis des beaux buts aussi, des jolis buts. Donc effectivement,
des arrêts de gardien, on n'a pas parlé encore, mais des arrêts de gardien aussi.
Pardon
Mehdi, pardon.
Un grand Lopez.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai qu'il faut le souligner. Anto Lopez, même s'il a encaissé 3 buts, il a été performant. Est-ce qu'on peut d'ailleurs... Allez, on va commencer. On va rentrer dans le vif du sujet, pardon. Est-ce qu'on peut sortir un joueur du lot ou pas vraiment dans une telle rencontre côté Olympique Lyonnais, pour vous? Ou c'est la force collective que vous avez envie de mettre en exergue?
Moi, j'ai envie de ressortir quand même la casette. Mm-hmm. Parce que il fait don de son corps à la fin du match et puis il est exemplaire. Il défend dans la surface, il attaque, il est un peu de partout. Je pense qu'il symbolise vraiment l'équipe lyonnaise en ce moment.
Nico.
Ouais, moi je ressortirais les leaders. Alexandre Lacazette en fait partie. Je suis d'accord. Il est venu défendre dans la surface. Il donne son corps à la science à la fin pour obtenir le penalty. Il remet les équipes. Il remet l'OL dans le sens de la marche. Je pense que ce but-là, il arrive rapidement après le troisième but brestois et ça permet à l'OL de rester dans le match. Je pense que si on le met 5 ou 6 minutes plus tard, on ne fait pas la fin de match qui s'est passée. Parce que là, en fait, on reste 2 minutes après avoir encaissé le troisième but, on recolle et on réanime la flamme, en fait. On ne s'est pas éteint. Donc, Alexandre Lacazette, Anthony Lopez, il fait 3 arrêts exceptionnels sur Doumbia, la première sur la reprise de volée, l'arrêt très difficile au sol en deuxième mi-temps. Il a été très important hier. Je dirais Matic, par son expérience, qui a fait dégoupiller les Brestois. Tagliafico également qui a fait dégoupiller Lesmelou. Alors il l'a payé d'un carton rouge. Enfin voilà, mais je dirais la colonne vertébrale. Matic, Lacazette et Lopez pour moi ont réussi à leur rencontre.
Je rajouterais Cherki aussi parce que il rentre, il change un petit peu, il change un
même
peu
beaucoup,
match.
Il change beaucoup,
pas que lui, hein, ils sont deux à rentrer, je crois, sur le changement. Mais voilà, il est de partout, il court, il est pas là où on l'attend, mais il tente des choses, il tente. C'est souvent pertinent, c'est souvent dangereux et ça a créé, je pense, cette fin de match.
Certitude. Un peu. Ouais, c'est vrai. Alors il crée beaucoup de choses. J'ai un bémol, il doit marquer. Ryan Cherki doit marquer et faire revenir l'OL au score plus rapidement. C'est un ballon qui me paraît facile pour un joueur de sa qualité technique. Après, c'est de la concentration, c'est de l'application, il y a tout un tas de choses. Mais en tout cas, dans ce match-là, il y a un avant et après la rentrée de Ryan Cherki, je suis d'accord avec Mehdi.
David, qui nous dit que Tagliafico, la Grinta, on ne parle pas assez de ce leader de l'ombre, il faut le prolonger. D'accord, pas d'accord?
Je suis d'accord avec son état d'esprit. Il a semé un peu le chaud et le froid cette saison. Je trouve qu'il revient bien. C'est vrai qu'il a cet état d'esprit, la scène Grinta qu'on connaît au sud-américain. Hier.
Et cette joie de vivre qu'on ne connaissait pas tellement chez ce joueur. Des fois, on le trouvait un petit peu renfermé,
Ouais,
à
c'est vrai.
l'entraînement un peu isolé. Là, on
Alors.
a le sentiment qu'il s'inscrit vraiment dans le collectif, qu'il se
Oui, et
sent
puis c'est peut-être déjà, il s'est peut-être
comme
intégré.
libéré.
Il s'est peut-être intégré, il parle peut-être un peu plus français. En termes de relations humaines, en termes de socio-affectifs, ça joue beaucoup. Et en plus de ça, maintenant, il met des buts importants. Donc
Il voit que
voilà,
ça joue mieux surtout.
ça joue
Il est mieux
mieux, il est mieux
entouré.
entouré.
Ah
Mais
oui.
ça, c'est une vérité, Razi.
Mais oui, il
Depuis
copie
le
pas.
mercato
Bien sûr.
hivernal, l'équipe a une vraie ossature et une vraie complémentarité dans les profils de
Oui,
joueurs.
à tes côtés, on peut que s'améliorer. Par exemple, Nico, chaque lundi sur ce plateau. Donc
Vil flatteur.
c'est pour ça que je dis ça. On salue Melik et Camille qui nous regardent depuis Los Angeles, visiblement. On salue aussi Idir qui nous regarde depuis l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, comme quoi on peut passer. On peut être dans la métropole lyonnaise ou on peut être aussi aux États-Unis. Voilà. Il y avait aussi un message sur Cherki, si c'est possible en régie. Je l'ai raté concernant Ryan Cherki. C'était le message précédent, je crois. Voilà, Cherki qui est très bon dans son rôle de remplaçant. Et c'est ce qu'on avait. C'était le sujet qu'on avait évoqué la semaine dernière. Savoir si Ryan Cherki devait être titulaire, s'il devait être remplaçant, selon toi. Est-ce qu'il a. Par rapport à son profil, par rapport à ce qu'il produit, par rapport à.
Moi, je pense qu'il rentre au bon moment,
Ouais.
dans des moments où c'est perdu, en fait, finalement, et où on ne se pose plus de questions. Et son jeu, c'est un peu de ne pas se poser de questions. Donc, je pense que c'est vrai qu'en début de match, on est assez théorique, on a des plans
Des
qui sont
stratégies mises en
faits.
place.
Et quand il rentre, bon, il y a toujours des plans, hein, mais il y a un peu
Ouais.
plus de liberté. Après, pour moi, ouais, je préfère le voir jouer 90 minutes que 20, mais effectivement, les 20 qu'il fait ou les 30 qu'il fait à chaque fois qu'il rentre, elles sont quand même assez belles.
On regarde le 11 de départ comme ça, c'est pour la transition, Nico Pilebois, tu sais que j'ai posé cette question parce on allait justement découvrir ensemble le 11 concocté par Pierre Sage pour cette réception de Brest. Quel est ton regard par rapport à son 11 de départ?
Bah moi, je reste focalisé sur Fofana, où je reste dans mon idée que c'est plutôt un super sub, quelqu'un qui doit rentrer, qui n'a pas ni le volume de jeu, ni la carrure aujourd'hui pour jouer ce genre de match de haut niveau avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'engagement, avec des duels. Il est encore un peu trop léger à mon goût. Et d'ailleurs, on l'a vu, hormis sa percée avec la frappe, il n'a pas fait grand-chose dans ce match-là. Il a plutôt erré. Donc voilà, je pense De par sa morphologie, il doit rentrer en seconde mi-temps une fois que les défenseurs adverses sont fatigués.
Mehdi, d'accord, pas d'accord?
Pas forcément d'accord, parce que en fait, je ne vais pas reprendre les mots de Pierre Sage, mais chaque démarrage a sa situation. Il y a des événements qui se passent aussi dans un match et on ne peut pas analyser après, en fait. Si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait été peut-être la même chose, ça aurait été peut-être mieux. Tout dépend du contexte, de la
Oui, c'est
situation, de
pour ça qu'on analyse
l'évolution,
des
du score.
faits.
Voilà.
Oui, après coup, c'est ce que veut dire Nico, c'est-à-dire après coup, effectivement.
C'est plus
Ah, puis,
facile en termes d'observateur, on revient
voilà,
toujours après ce qui s'est
ouais,
passé.
c'est
pareil.
Faire des choix, c'est difficile. Donc Pierre Sage, forcément, il pense que par rapport à sa rentrée face à Nantes, il mérite d'être titulaire. Et je serais plutôt d'accord avec Pierre Sage.
Et la semaine d'entraînement. Moi,
Et la semaine
c'est l'info
d'entraînement,
que j'ai eue.
sûrement.
C'est aussi par rapport aussi. Et tu as raison.
Oui.
L'entrée, sa bonne entrée à Nantes
Bien
et la
sûr.
semaine d'entraînement
Sauf
réalisée
que,
par Malik Fofana.
sauf qu'il faut prendre en considération l'adversité, enfin, le côté rugueux de l'adversaire, et on voit bien qu'aujourd'hui, en termes d'impact et de duel, il a du mal à répondre présent de par sa morphologie.
Il y avait un sacré client locaux à gauche.
C'est
Moi,
pour ça que je dis
il
ça.
m'a vraiment impressionné, tant défensivement qu'offensivement.
Ouais, très bon joueur, on est d'accord.
Il a été très très bon.
Non mais.
Il accélérait encore à la
Mais
90e.
l'adversité proposée par Brest dans sa
Ouais, c'est ça.
globalité, le jeu collectif qui est très huilé, qui est bien travaillé, avec des individualités qui viennent bonifier le collectif, Lesmelou, Del Castillo qui a fait un match fabuleux,
Loco, ouais.
Loco sur le côté, je sais plus si c'était Loco ou Boco, c'est pour ça, qui est très performant, qui ont un gros volume de jeu, aussi bien athlétique que pour le reste. Enfin, je trouve que cette équipe de Brest est très très équilibrée et pendant longtemps dans le match, nous a proposé une adversité de qualité.
Oui, un supporter qui va dans ton sens, qui dit que Fofana souffre plus quand il est titulaire que quand il rentre en cours
oui,
de
mais
jeu.
Parce qu'il rentre face à des joueurs diminués, physiquement, je parle. Donc il apporte sa fougue, il apporte sa vitesse, et je trouve que c'est là aujourd'hui où il est le meilleur. Après, il va se guérir.
C'est ce que je dis, à la santé, 18-19, bien évidemment.
Il a 18-19 piges, donc il a le temps de gagner en maturité, de
muscler son jeu.
Bah, muscler son jeu, exactement. Oui, Robert.
Est-ce que vous avez des nouvelles de Lacazette, nous interroge justement Romu. Lacazette, effectivement, va mieux. On l'avait dit hier sur olympiquelyonnais.com. Voilà, il surveillait forcément l'état physique, du numéro 10 lyonnais et surveillé avec attention par le staff de l'Olympique lyonnais. Il a passé des examens, mais visiblement...
Il a pris un bon tampon, mais il est solide.
Oui, il est très solide. Le général, non? Très solide, le général. Il abandonne jamais, le général. Voilà, il a petite douleur, c'est vrai. Alex Lacazette, mais visiblement, ça peut être bon pour Paris, même si forcément, on ne va pas prendre de risques. Nico, c'est toujours pareil.
Jamais, il ne faut pas.
Il ne faut pas prendre de risques au niveau...
Non, on va en avoir besoin pour la fin de saison, on va en
santé.
Avoir besoin pour la finale de la Coupe de France. Donc oui, il faut surveiller ça et pas être impatient.
Petite statistique, après ce succès de l'Olympique lyonnais à domicile contre Brest, Pierre Sage, on parlait de l'entraîneur de l'Olympique lyonnais par rapport à sa compo, Pierre Sage a remporté 64,7% de ses matchs avec l'Olympique lyonnais en Ligue 1, 17, je vais y arriver, pourcentage le plus élevé pour un entraîneur de l'Olympique lyonnais dans l'élite, c'était Gérard Houllier, deuxième avec 64,5%. La patte, Pierre Sage, Mehdi, selon toi.
Bon, moi, Pierre Sage, je le connais un petit peu. J'ai eu la chance de le rencontrer dans différents contextes, à Vénissieux, à la Ligue et aussi un petit peu à l'Olympique lyonnais. C'est un gros, gros travailleur. Mm-hmm. C'est un passionné. Je crois que ça doit être celui qui doit arriver le premier à l'OL et partir le dernier. En tout cas, c'est comme ça qu'il fonctionnait à l'Académie. C'est quelqu'un qui maîtrise tout, qui est dans le détail. On va pas parler de son humilité, etc. Mais en tout cas, il sait de quoi il parle.
Son humilité, parce que ça a apporté de la sagesse à tout le club.
C'est ça, et ça a peut-être transpiré sur les autres. En tout cas, il laisse rien au hasard. Moi, je suis pas forcément étonné qu'il en soit là, puisque il maîtrise depuis très très longtemps les différents schémas, tout ce qu'il veut mettre en place, il a pu le tester aussi dans ses différentes expériences. Voilà, la patte Pierre Sage, elle est déjà humaine, je pense qu'il a transmis un savoir-être à beaucoup.
Savoir-être, pas mal.
L'humilité.
C'est très juste.
Savoir-être, c'est très important.
C'est très, c'est plus important dans la vie,
oui,
pour moi.
L'équipe,
donc, c'est très juste.
L'équipe lui ressemble aujourd'hui et quelque part... les résultats, ils viennent valider un petit peu tout ce qu'il essaye de mettre en place. Après, il n'est pas aussi seul. Hein. Il a dans son staff des gens qui lui ressemblent, comme Jamel,
qu'on connaît bien aussi.
Aliouï, et aussi comme Jérémy Bréchet, que j'ai pu croiser aussi à l'académie à l'OL, qui a démarré avec les U12, ouais, ou les U13 de l'Olympique Lyonnais chez les jeunes.
Progresser au fur et à mesure.
Voilà encore un exemple d'humilité et de passion et de travail. Voilà, pour moi, il ressemble vraiment à l'ADN OL et ça se transpire après sur le carré vert.
Après,
mes sincères excuses, je suis désolé, parce que je vois pas mal de commentaires, mais sincères excuses pour le 11 de départ, parce qu'il y a une erreur dans le 11 de départ concocté par Pierre Sage. Il y a des erreurs dans le 11 de départ, donc désolé. Non, la régie était encore en vacances.
On était focalisé sur Fofana par rapport à mon propos, mais pour petit bémol par rapport à la stat, elle est bien à un instant T. On le compare à Gérard Houllier, mais qui a gagné 64 matchs sur 79. On verra dans 70 matchs si Pierre Sage est encore là, parce que
il sera là.
Je l'espère et j'espère qu'il entretiendra cette dynamique parce qu'elle sera importante pour l'OL. Ça veut dire qu'on sera tout en haut. Donc voilà, je l'espère, mais il faut aussi reconsidérer dans le contexte le nombre de points, le nombre de matchs.
Toujours, c'est très important, Nico. Tu as raison, et pour contextualiser aussi.
Et c'est pas pour amoindrir sa performance, c'est juste pour remettre en perspective.
Tu as raison, c'est important. Et par rapport au 11 de départ, c'était Mata qui était titulaire, justement,
ouais,
et Kalatasar qui était pas là. On parlait de Pierre Sage, on va regarder une déclaration après. Et pareil, c'est vrai que dans la déclaration, ce qui est intéressant, Pierre Sage, après le match, même s'il y a de l'euphorie, même si tout le monde est content, tout le monde est ému, même certains supporters, parce que c'était quand même un match plaisant, parce qu'il y a cette victoire, il y avait de la pression, il y a de l'enjeu. Il est toujours...
finalité qui est extraordinaire.
D'un calme olympien. dans son analyse d'après-match. On est passé par beaucoup d'émotions en très peu de temps sur ce match. On a eu le sentiment de vivre quelque chose d'extraordinaire. Je me souviendrai longtemps de ce match, les spectateurs aussi. Ça nous montre que tout est possible avec cette équipe en vue de notre fin de saison. Cela nous donne encore de l'espoir. Cela nous donne encore l'espoir de vivre des choses qui paraissaient impossibles il y a peu. Et ce qui est intéressant aussi, on l'a pas mis dans cette déclaration, c'est qu'il dit qu'il n'était pas satisfait aussi du jeu. Donc effectivement, il y a la victoire, les trois points, on a offert du spectacle, des émotions aux spectateurs, aux téléspectateurs, mais en tant que fin tacticien, en tant que manager, en tant qu'entraîneur, il n'était pas satisfait à 100% finalement par rapport au jeu produit, Nico.
Oui,
Il a raison.
au milieu de terrain, on n'a pas été aussi maîtrisant que sur certains matchs. En début de seconde mi-temps, l'OL est passé complètement à côté de son entame de seconde mi-temps. Et d'ailleurs, c'est là où ils ont créé le décalage. Il y a beaucoup de choses qui sont perfectibles. Mais il ne faut pas oublier que cette équipe-là, il y a trois mois en arrière, elle était dernière du championnat.
Elle revient de loin.
Donc, sur la dynamique, sur l'état d'esprit. Et c'est là où je trouve qu'il y a un vrai impact. C'est qu'aujourd'hui, il a su modifier l'état d'esprit, l'attitude et le savoir-être de certains joueurs. Laissons-le travailler. Et l'année prochaine, ajouté à toutes ces qualités-là, il viendra mettre son plan de jeu et sa théorie du jeu de possession et son aspect tactique. Et à ce moment-là, on verra peut-être un plus bel OL. Mais en tout cas, ça se construit étape par étape. On peut pas passer. Déjà, on est passé de dernier à septième du championnat. Ça n'avait jamais été fait. Oui, il est exigeant et c'est plutôt bien, tout en étant humble. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui.
Mehdi.
Je pense qu'il parle aussi un petit peu à ses joueurs.
Hein. Oui. Ah bah clairement.
Il prépare le début de semaine. En tout cas, c'est vrai qu'il a raison. Par contre, on n'aurait pas eu un match comme ça s'ils avaient été meilleurs dans le jeu. Donc pour nous spectateurs, ça nous va bien quoi. Pour lui un peu moins, mais pour nous c'est top.
Après, ce qui est intéressant, c'est que encore une fois, suite à la demi-finale face à Valenciennes et ce match-là, il commence à se passer des choses au Groupama. Peut-être que cette équipe est en train de créer une âme dans ce stade qui n'existait pas jusqu'à présent. Autant à Gerland, on a vécu des choses, il y a cette nostalgie, c'est pour ça que beaucoup de supporters ont la nostalgie de Gerland. J'espère que cette équipe, grâce à ce staff et ces joueurs-là, vont créer une âme dans ce stade et voilà, que ça va devenir difficile de venir s'imposer au Groupama. Mais en plus de ça, les supporters viennent pour vivre des émotions, les partager avec les joueurs et c'est ce qui est en train de se passer. Ça sent bon, j'aime beaucoup ce qui se passe.
Par rapport à tout à l'heure, la statistique concernant Gérard Rouillet, il y a un téléspectateur qui a fait la remarque, je pense aussi pertinente, en disant que c'était pas le même effectif, c'était pas les mêmes moyens. Donc tu as raison, en fait, il faut toujours contextualiser.
Mais c'est pour ça qu'il faut contextualiser.
Tu as raison, c'est pour ça qu'il est dans ton sens en disant voilà, en fait, non, il faut raison garder et toujours avoir tous les éléments.
C'est vrai.
Et il y a une question pour Nico Puy-de-Bois, je te redonne le ballon après-midi, mais tu sais, Nico, c'est sa thérapie, en fait, chaque lundi. Il a besoin là, d'évacuer, il est. Voilà, il. Même quand il est heureux, même quand il est malheureux, en fait, finalement, tout le temps. Nico, tu as besoin de t'exprimer.
Merci à vous.
Tu as ce besoin. Question, Nico. Son avis sur le public lyonnais a tendance à s'embourgeoiser dans les années 2000. Cette année, clairement, meilleur public de France.
Ah, je ne sais pas si c'est le meilleur public de France parce que je ne vois pas assez de matchs à l'extérieur ou ailleurs.
Parce que Nico, il ne regarde pas les autres matchs. Je vous arrête tout de suite. Nico, il n'en a rien à cirer. Hein. Je vous dis, c'est l'Olympique lyonnais, c'est
tout. En tout cas, je sais que les supporters, depuis le début de la saison, ont joué leur rôle et l'ont joué à fond.
Oui.
On supportait le club, même quand on était mal en point. On supportait les joueurs, n'ont pas lâché et ont vraiment joué leur rôle de 12e homme depuis le début de la saison, sans faillir. Et il se passe quelque chose. Donc, et l'équipe, grâce à ce soutien, a pu redresser la barre. Et le nouvel état d'esprit et la nouvelle humilité dégagée par cet effectif créer cette osmose avec les supporters et avec les groupes de supporters et avec ce stade en entier. Donc c'est pas un hasard si tout va bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui à l'OL.
Allez, j'ai chose promis, chose due. Mehdi, tu as la parole.
Non, moi, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur l'âme qui est en train de se construire dans cet effectif et autour du Groupama. Moi, le match de dimanche soir. C'est beaucoup mieux qu'un match de Ligue Europa. Faut ce qu'il y ait, un stade plein, du suspense, un petit peu de bagarre, comme tu as dit.
il aime la bagarre.
Voilà, donc effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Mais de toute façon, cette saison, c'est un conte de Noël.
Ouais, c'est vrai.
Où le premier épisode, on apprend qu'on a une maladie
incurable. On aurait tous pu.
On a le dénouement qui est improbable et l'issue sera sûrement belle et on s'en rappellera. Les plus jeunes.
Le plus jeune.
Plus jeune que nous.
Plus jeune que nous, parce qu'on commence à vieillir, Nico. Mais c'est vrai, tu as raison. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance hein, au sein du vestiaire. C'est tout bête. Et Nico, tu as vécu ça en tant qu'ancien pro, même les rassemblements comme les repas. Souvent, ouais. dans des effectifs, le repas, bah, chacun un peu soit dans son coin, ou alors
avec ses copains.
Exactement. Ou alors une bonne ambiance, où ça rigole, où ça partage. Et c'est ce qui se passe. On m'a rapporté ça en me disant que voilà, même oui, dans les repas,
c'est nouveau.
On voit le changement. Et c'est nouveau.
C'était pas ça en début de saison.
Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et que là, au contraire, que même les joueurs restent, tout le monde parle avec tout le monde, ça chante, ça rigole. Il y a une certaine unité même lors des repas.
Mais ça, c'est le travail du staff, c'est le travail de Pierre Sage, c'est la nouvelle mentalité qui est inculquée, qui est demandée, et de par, encore une fois, l'humilité, la sagesse, on a remis en place les fondamentaux du footballeur professionnel, qui est de travailler, d'être humble, aujourd'hui, j'ai trouvé que on parlait des supporters qui étaient embourgeoisés, mais moi, je trouve que c'était nos joueurs qui étaient embourgeoisés. Mmh. Ils voulaient plus faire d'efforts, ils jouaient chacun pour leur gueule, il n'y avait pas d'objectif commun. Et bah, tout ça, ça a été les cartes ont été redistribuées, on a tout remis à zéro. Et depuis l'arrivée de Pierre Sage et de son staff, on sent cette humilité, on sent que le mot d'ordre, c'est de travailler en silence et que les résultats feront du bruit pour nous. Enfin voilà, il y a tout un processus qui a été mis en place et c'est pas étonnant que le renouveau passe également par les relations entre les joueurs.
Après, je pense qu'on était tellement bas que certains, enfin s'il y en avait qui manquaient d'humilité, ont dû se remettre en question sans l'apport de personne aussi. Hein.
Ouais, mais se poser des questions quand même. Enfin, ouais. Ils ne comprenaient pas les critiques, ils voulaient qu'on les encourage malgré tout. Enfin, on a eu ces retours-là. C'est pour ça qu'ils étaient un peu déconnectés de la réalité des choses.
Oui, c'est vrai.
Il manquait une lucidité, très clairement.
Mais bien sûr.
Non, c'est parce qu'on a eu ces retours, c'est pour ça.
Je pense que plus le temps a passé et plus ils se sont mis en cause eux, plutôt que de mettre en cause les coachs ou la situation ou ceci ou cela. Et c'est ce qui fait qu'ils se remettent en question. Je pense que quand tu arrives en décembre et que tu es dernier, ça ne peut pas être la faute à Pierre-Paul Jacques et pas les joueurs, quoi. À un moment donné, ça participe à la remise en question.
En tout cas, c'est pas étonnant que le renouveau dans le vestiaire va de pair avec les résultats.
Bien sûr.
Déjà, ça va toujours mieux quand on gagne. L'état d'esprit toujours. Est apaisé. L'énergie, c'est pas la même dans un vestiaire quand tu gagnes ou quand tu perds ou quand tu es en tendance.
Positive, l'énergie
est
négative.
Voilà. Et le positif attire le positif en général. C'est ce qui se passe aujourd'hui.
Exact.
Et en tout cas, et la solidarité et les relations humaines, les nouveaux liens. Mis en place au sein du collectif et au sein du vestiaire rejaillissent sur le terrain et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus facile de faire des efforts pour quelqu'un avec qui tu partages des moments qu'avec quelqu'un pour qui tu es indifférent dans tous les clubs et dans toutes les équipes.
Il y a David qui vous interpelle messieurs en vous posant cette question. Pensez-vous que Pierre Sage a trop tardé pour faire des changements sur ce match? Si on rentre dans les détails, si on essaye d'être un petit peu parler un peu de tactique, de coaching. Pour vous, selon vous.
Je pense que c'est encore une fois, c'est des événements. Parce qu'il y a deux buts, on prend deux buts coup sur coup en quoi 8 minutes, je crois.
En 10 minutes, on prend 3 buts. Ouais.
10 minutes. C'est dur de digérer le premier but, de prendre le deuxième. Et je ne pense pas qu'il a tardé spécialement. Je ne sais pas ce qu'il avait prévu. En tout cas, il fallait réagir à un moment. Il l'a fait après ce troisième but.
Peut-être au milieu de terrain. Peut-être au milieu de terrain où il aurait pu apporter un peu plus de fraîcheur, un peu plus de Corentin Tolisso qui a plutôt fait une bonne première mi-temps, mais qu'on sent émoussé. Il n'a pas la caisse ou le volume de jeu pour tenir 90 minutes. En tout cas, il a été très bon en première mi-temps. Et voilà, on manquait de répondants en termes d'intensité entre Matic et Tolisso. Dès qu'il y a un peu plus d'intensité, c'est plus difficile pour le milieu de terrain lyonnais.
Bien sûr.
Dès qu'il y a de l'impact, dès qu'il y a des courses. On l'avait vu face à Lens notamment. Et donc ça s'est répété là face à Brest avec une équipe qui est plutôt huilé et qui a un vrai, vrai jeu collectif.
On parle de l'arbitrage ? On est obligé ? On est obligé de parler de l'arbitrage ?
Mais un peu.
Mais s'il vous plaît,
l'arbitrage,
comment vous êtes objectif, ne faites pas comme Libération, Nico Puy-de-Bois, ne soyez pas des magots. Non, je rigole, je te chambre, mais
ah, je peux dire,
je sais que tu fais preuve d'objectivité, justement, on essaye, en tout cas sur ce plateau. Concernant l'arbitrage, déjà, votre regard, vous, par rapport aux différents...
J'ai pas trouvé de grosses erreurs en fait, si ce n'est le rouge sur un Brestois sur l'Esmelou où il doit prendre peut-être jaune et pas rouge direct. À part ça, j'ai pas vu de grosses bêtises quoi.
En fait,
la main déjà au départ.
Ouais, on en a vu du sifflet pour moins que ça. Donc objectivement, voilà. L'OL aurait pu être
à la 16e minute, O'Brien.
Bien sûr, voilà, l'OL aurait pu être sanctionné d'un penalty. Encore une fois, c'est l'utilisation de la VAR qui est pas bonne, comme à Nantes. C'est-à-dire que s'il y a un doute, la VAR doit appeler comme il s'est passé sur le penalty, sur la faute sur la casette en fait. L'arbitre doit aller voir et se faire sa propre idée. Et comme ça clôt le débat. Ça, c'est pas le cas. Lesmelou, pour moi.
C'est deuxième jaune, hein.
Oui,
Visiblement, c'est un deuxième jaune. Il n'a pas pris un
mais
rouge.
Lesmelou, il est blessé. Il y a une faute.
Oui.
Tagliafico le relève. Après, il y a une réaction. On est tous pareils. Alors après, il paye pour l'ensemble de son œuvre. Sur l'ensemble du match, il aurait peut-être pu être averti avant. Ça l'aurait peut-être calmé. Toujours est-il que il se fait expulser sur ce coup-là. Alors, c'est pas lui le fautif. C'est un excès d'engagement et c'est un excès de volonté de la part
Donc,
de Tagliafico.
voilà, donc deuxième jaune en fait.
Pour moi,
Faudrait, ce jaune ne mérite,
pour moi, il ne le
il
mérite
mérite pas le
pas.
deuxième
Pas
jaune.
à ce moment-là, en tout cas.
Non, non,
Il
mais.
aurait peut-être pu le mériter ailleurs, mais sur cette action-là,
Aussi,
pas.
tu es
Je
d'accord?
suis
Non, non, il
d'accord.
n'y a pas de problème. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas.
Et après, sur le pénalty, il y a plusieurs manières de voir les choses sur Lacazette. C'est-à-dire que Lacazette ne peut plus avoir le ballon. Et le gardien le tamponne vraiment, c'est vrai.
Et il
Donc,
n'est pas hors jeu, Alex.
Alexandre n'est pas hors jeu.
Ok.
Donc, il aurait pu y avoir des
Tu es d'accord avec ce que je dis?
interprétations. Il y aurait pu y avoir des interprétations. On expulse le gardien, mais comme Lacazette ne peut pas avoir le ballon, enfin, il y a tout un tas de
Alors, le
choses.
gardien, on l'expulse par contre.
Le gardien doit être expulsé.
Donc, Brest, là-dessus.
Oui, bien sûr, mais je suis
Voilà,
d'accord.
disons les
Le gardien.
choses.
Donc en fait, il y a plein d'interprétations. Moi, je pense que le pénalty est justifié. Le carton jaune, il est léger parce qu'il mérite un carton rouge. Mais l'interprétation pourrait être, il peut plus avoir le ballon. On expulse le gardien. Mais par contre, on n'accorde pas de pénalty. Il y aurait pu avoir cette interprétation-là.
Et Matic n'a pas fait mal à la 64e minute.
Et Matic a fait dégoupiller les a fait
Ouais, mais il n'a pas fait mal.
Non, mais Matic a fait
Oui.
dégoupiller les Brestois de par son expérience, de par son côté malin
Parce que Mickaël nous dit d'ailleurs par rapport à la main, parce que contre le. Parce, par contre, pardon, la main de Matic, c'est honteux, le bras est collé au corps. Voilà, c'est pour ça qu'on parle.
C'est
Ah oui,
jamais
c'est vrai.
clair ces
Oui,
sujets
c'est vrai. Mais voilà.
ces sujets de main,
Le coude,
etc.
tout
C'est pas
ça.
clair, c'est pas clair.
Par contre, je suis
et
d'accord
ça
au niveau
sera
des règles.
jamais en fait,
Ce sera jamais.
ça le sera
C'est un
jamais.
vrai problème. Parce que
Oui,
même nous,
c'est un vrai problème.
en étant soi-disant, j'ai bien soi-disant entre guillemets spécialiste, observateur, enfin observateur ou pas, du football, on est en tribune de presse, on ne sait même pas. Même les commentateurs, quelque part, parce qu'on ne sera, on ne sait plus. On ne connaît même plus les règles, finalement. Donc on voit des débats ce soir, il y en aura des débats sur certaines chaînes ou sur des radios périphériques. Et finalement, tout le monde, c'est un peu l'interprétation, tout le monde va s'enflammer, mais concrètement, et tu as raison, Mehdi, on ne sait même pas.
En
On ne sait
fait,
plus.
moi, je pense qu'on a voulu, on a sécurisé les mains, je dirais vraiment flagrantes, hein, la main de Henry, la main de Maradona, etc. Ok, il y en avait des très grosses qui ne se voyaient pas forcément, mais après tout le reste, il faut laisser à l'appréciation de l'arbitre et pas rentrer dans des débats, parce que des fois il la siffle, des fois il ne la siffle
Ouais,
pas,
c'est ça.
collé
Et
au
chaque
corps,
arbitre
pas
est
collé au
différent,
corps.
il y a
Voilà,
son propre
je
libre
dirais que
arbitre.
les gros trucs vraiment flagrants, allez, c'est
Bien sûr,
indiscutable,
bien
tout le
sûr.
reste, il faut laisser à l'appréciation de l'arbitre. Comme dans le foot amateur.
Est-ce que pour vous, c'est exagéré, et pourtant on est tous ici fans de football, et on a tous loué les qualités de cette équipe brestoise, qui joue bien au football, qui produit un beau football, qui mérite,
Mais qui s'est relâché.
mais qui s'est relâché.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'il y a eu quand
Il
même,
tenait
il y
le
a eu un
match, hein.
rôle, il tenait le
Il
match,
tenait le
il y a eu
match.
un relâchement, il y a eu aussi à la sortie de Doumbia, on l'a évoqué avant l'émission, c'est pour ça. Enfin, je suis désolé.
Les choix d'Éric Roy de sortir Doumbia
Ben oui,
posent question.
on est d'accord.
Et pour moi,
Le
ils ont voulu
relâchement
ne
en
pas
Brestois.
perdre.
Ouais.
Pour moi, ils voulaient se contenter
Et
d'un
après, ils ont
nul.
joué pour pas perdre.
Ils ont joué pour pas perdre et.
Ou maintenir le 3-1. Et c'est pas ce qui s'est passé grâce au but d'Alexandre
Brest n'a pas eu
Lacazette.
besoin de l'arbitre pour mal gérer sa fin de match. Je pense qu'on est tous
Non.
d'accord, non?
Bon, après, les faits de jeu et l'accumulation de faits de jeu fait que la frustration monte de plus en plus et tu dégoupilles. Mais ça c'est humain. Par contre, un sportif de haut niveau doit savoir garder son sang-froid dans ce genre de situation. On doit être habitué, ils doivent être préparés à ça. Après. J'aurais tendance à dire que les Lyonnais, de par leur nouvel état d'esprit, de par leur nouvelle attitude, provoquent les situations qui tournent en leur faveur, là où en début de saison, ça tournait en leur défaveur. Et je pense que ça, c'est aussi dû à l'attitude et à l'énergie qui est dégagée par cette équipe, à l'état d'esprit. Et c'est vraiment nouveau, parce que autant début de saison, on ne méritait peut-être pas les décisions contraires. Mais de par l'attitude, de par ce qu'on proposait, ça pouvait s'expliquer. Là, ça a tourné parce qu'il y a eu un changement d'état d'esprit, un changement d'attitude de la part des Lyonnais, selon moi.
David, notre fidèle téléspectateur, est très, très en forme ce soir. Il y a zéro cohérence. S'il siffle une main, c'est celle de O'Brien et non celle de Matic. Compensation, comme toujours, en Ligue 1. Encore une fois, on peut comprendre la frustration brestoise. Elle peut être légitime. Je veux dire, c'est un match en jeu, ils sont deuxièmes, etc. On peut comprendre. Et peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à avoir un tel Olympique lyonnais. Pourquoi pas? Why not? Par contre, de là à dire que l'OL est avantagé et tout ça, c'est un autre débat. Nico, on l'évoquera d'ailleurs tout à l'heure, ce sera un peu le troisième thème, un peu Lyon
Le
contre le reste
reste
de
du
la
monde.
France, effectivement, le reste du monde. Mais par contre, encore une fois, objectivement, on a essayé de préparer cette émission, de regarder un peu les faits. Et Lorient-Brest, le 31 mars dernier, 28e minute de jeu, reprise d'Adjei, déviée par le bras de Chardonnay. Check à la barre, pas de pénalty sifflé, victoire 1-0 de Brest. Et là, pas de contestation, pas de problème. Donc, Brest est reparti avec les 3 points. Donc, ça s'équilibre finalement.
Déjà, on a tendance à dire que ça s'équilibre, mais c'est surtout, tu fustiges toujours les décisions qui sont contraires. Les décisions favorables, tu les prends, tu les comme nous hier, très bien. Et la main, comme à Nantes, les mains non sifflées.
C'est pour ça.
Super, on va l'accepter.
Eh bien
sûr. On acceptait les décisions contraires, donc on va accepter les décisions favorables. Mais c'est souvent très frustrant.
Moi, je pense qu'ils ont de quoi être frustrés d'avoir pris 3 buts dans les 10 dernières et 15 dernières.
D'avoir
été renversé.
On a mis le 3-2 à la 70e, il me semble.
Voilà, après, ils se trompent de coupable, je pense que.
Ils se trompent de coupable.
C'est pour ça que je dis ça. C'est plus par rapport à ça. Ils se trompent de coupable.
Pour moi, c'est ça. C'est
ils avaient le match en
main. Avoir joué un petit peu à un petit niveau au foot, c'est vrai que quand tu prends 3 buts, le résultat s'inverse sur la fin. Voilà, tu cherches quelqu'un.
Toujours un responsable.
Qui remet, voilà.
Et t'externalises l'échec.
C'est ça.
Là, ils avaient le match en main à 3-1. Très clairement, ils avaient le match en main. Et sur un coup de pied arrêté, on égalise rapidement, ce qui relance, ce qui inverse la dynamique du coup. Parce que là, on a repris espoir de pouvoir gagner ce match-là.
Il y a un tweet, une fidèle téléspectatrice aussi, et puis du site aussi Olympique et Lyonnais, c'est Elincat. L'arbitre a été mauvais, mais pas partial. Quand les gens comprendront que c'est un problème de règles, d'organisation et de qualité du corps arbitral, on avancera. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça ?
Je crois qu'elle a résumé tout ce qu'on dit. Hein, c'est assez juste. Assez juste. J'ai pas trouvé de grosses bêtises. J'ai pas trouvé en faveur de l'un ou de l'autre.
Ça n'a pas faussé le championnat, quoi, pour être clair. Pour dire les choses clairement, comme on va entendre sur certaines.
L'arbitre n'a pas été bon, comme des fois, nous, joueurs, on n'est pas bons, comme des fois, les coachs font des mauvais choix. Bah voilà, là, c'est lui qui s'est trompé.
Et il paraît que ça s'équilibre.
Il paraît que ça s'équilibre sur une saison.
Il paraît.
Et tant mieux pour nous. Ah, on prend.
C'est ce que nous dit un téléspectateur en disant les décisions s'équilibrent sur une saison. On regarde le classement de Ligue 1 pour voir que l'Olympique Lyonnais est 7e de Ligue 1. Incroyable. Nico Pubois, qui l'eut cru.
Il y a 3 mois en arrière, on aurait signé pour voir un classement de cet ordre-là. D'autant que, alors même si certains n'ont pas joué, on se rapproche de Lens, qui est plus qu'à 2 points. De Nice. L'OL a clairement, alors même si on a un gros calendrier, l'OL a clairement son destin en main pour conserver cette 7e place et son destin européen.
Pour moi, Lille, ils sont plus touchables, mais connaissant Pierre et voyant un petit peu l'état d'esprit des joueurs, je pense qu'ils cherchent cette 5e place.
Tu passes devant.
Ça, c'est possible. Pour moi, c'est possible.
Ouais, pour moi aussi.
Toujours rêver, Nico. Il faut rêver d'Europe, il faut y aller.
Mais il faut être ambitieux.
Il faut être ambitieux maintenant.
Et puis lâcher les forces. Parce que maintenant que le maintien est mathématiquement acquis, à nous de jouer libérés et d'aller chercher plus haut. Voilà, c'est tout. Et préparer, et bien finir cette saison, c'est bien préparer la saison prochaine. Allons chercher le plus haut possible.
J'ai oublié tout à l'heure par rapport à Brest aussi, ils ont quand même encaissé 7 buts en 2 matchs. Hein. Donc 3 contre Metz, 4 contre l'Olympique Lyonnais, donc c'est pas que l'arbitre.
Oui, ils sont pas aussi imperméables qu'ils ont pu l'être.
Exactement.
Le passé.
Une remontada historique, nous dit aussi ce téléspectateur. Effectivement, c'est vrai que c'était encore une fois incongru.
Si parce qu'on avait fait pareil contre Montpellier l'année dernière. Donc voilà,
statistiquement.
Ah non, par rapport au classement.
Au classement.
Je crois que par rapport au match d'hier. Excuse-moi, Razi.
Reste concentré.
Je suis désolé.
Je sais que tu es content, euphorique, mais quand même. Un peu de rigueur.
Parce qu'on en vit là.
Il est excité là.
On en vit des matchs quand même intéressants, des matchs sympas. Mais oui, en termes de remontada historique, oui, c'est une vérité.
On a déjoué toutes les statistiques, on devait être en Ligue 2.
Mais oui, c'est vrai. Tu vois, c'est inimaginable parce que normalement, c'était la Ligue 2 et là, tu étais 7e.
Et tu vas peut-être être européen.
Oui.
Enfin, pas peut-être, j'ai l'impression qu'on va y être. Moi.
C'est vrai.
Parce que là, aujourd'hui, si ça s'arrête, on est européen. Je crois la 7e place et le fait
que ça s'arrête, on est européen. Bon, Marseille a un match en moins. Bon, il n'est pas gagné.
Ils sont pas dans la même dynamique, je crois, les Marseillais.
Pas du tout.
Pourquoi Nico ? Ah, mais ça, c'est important. Parce que je sais que Nico a été décrié. Et c'est normal, parce que moi, je peux comprendre la jeune génération, parce que c'est un autre état d'esprit, c'est peut-être un autre football, une autre culture. Et encore une fois, en disant ça, c'est pas dire que c'est mieux ou moins bien. Pourquoi Nico est autant attaché à la valeur humilité, justement, ce côté toujours l'humilité, le travail, etc. Non, mais des fois,
parce que c'est mon éducation.
Toi, t'es persuadé, encore une fois.
C'est mes parents, c'est mes grands-parents, c'est une question de savoir-être.
Bien sûr. Mais est-ce que tu penses, Nico, que ça joue beaucoup pour, dans un groupe, dans un vestiaire, pour une équipe de football, au-delà des qualités intrinsèques?
L'ennemi est l'ego.
Oui.
Ou l'ego est l'ennemi, comme tu préfères. Il y a un livre là-dessus d'ailleurs.
Nico Pubois.
De partout et tout le temps.
C'est une info là.
C'est ce qui fait la différence dans les groupes, en fait. Ma liberté commence là où ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et l'humilité est mère des vertus. Alors ça, c'est une expression comme tu veux, mais moi, on m'a éduqué comme ça. Travaille, reste humble, respecte les gens, ne les prends pas de haut. Tu parles aussi bien avec un éboueur qu'avec un président. Voilà, tu respectes la personne de la même manière, parce qu'en fait, c'est une personne et c'est l'être humain qui fait la différence. Et donc, moi, je suis attaché à ces valeurs-là. C'est ce que j'essaie d'inculquer à mes filles. Alors, même si des fois, la vie fait que, bah voilà, la vie faisant, et puis bah voilà, on peut leur offrir plus que ce que moi j'ai eu quand j'étais plus petit, mais parce qu'on leur donne ce qu'on n'a pas eu, mais on essaye de leur apprendre ces valeurs-là, de leur transmettre, parce que c'est important, parce que c'est l'être humain pour moi, la valeur de base. Et l'humilité fait partie des valeurs fondamentales pour réussir dans la vie, selon moi.
Je n'ai jamais vu un club faire une telle remontée. Ça démontre l'excellent travail du club pour remettre les têtes à l'endroit, nous dit Fred. On va enchaîner parce qu'avec le calendrier des prochaines rencontres, parce qu'on est pris par le temps, on est très bavard et c'est normal. Comme
On va
chaque
dépasser.
lundi, on va dépasser, je pense, et on va se faire disputer, tirer les oreilles. Le calendrier des prochaines rencontres, un déplacement du côté du Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain, la réception de l'AS Monaco et un déplacement du côté de Lille. On l'avait dit, Nico, déjà la semaine dernière, mais on va donner la parole à Mehdi. De toute façon, voilà, on sait que c'est un calendrier sur le papier compliqué.
Compliqué, hein, bah, de trois ténors de la Ligue 1. Après, voilà, on est libéré, on est maintenu, on a une belle finale à jouer. Je pense que c'est des matchs, que ce soit pour le staff comme pour les joueurs, c'est des matchs à vivre. C'est des matchs à. Il n'y a pas besoin de se motiver, je crois, pour ces matchs et pour tout donner. Donc, bah, nous, ça va nous faire plaisir, hein, devant la télé ou au stade. Je me pose des questions sur ce match de Paris, vu qu'on a une finale. Est-ce qu'il va chambouler des choses? Est-ce qu'il va tester des choses? En tout cas, ça va être un petit test avant la finale. Je pense qu'il y aura peut-être des petits changements. Peut-être, je sais pas, à voir. Après, Monaco qui veut stabiliser ses places européennes. Pareil pour Lille. On a quand même un calendrier qui est difficile.
Nico,
Ouais, pas.
rapidement.
Alors. Paris, ils ont un match de Coupe d'Europe. En fonction de l'issue de leur qualification ou non, il peut y avoir un visage différent de la part des Parisiens. Monaco, c'est difficile, mais on les reçoit. Après, voilà, on joue les trois premiers, c'est la montagne. Donc, ce sera des matchs compliqués, mais super intéressants à jouer pour se jauger et savoir où on en est de notre évolution.
Allez, on enchaîne avec le deuxième thème. On va parler justement comment l'OL, on va s'interroger comment l'OL arrive à renverser ses matchs. Parce que c'est un peu le scénario, les scénarii.
Préféré en ce moment.
Effectivement préféré de cette équipe lyonnaise. C'est le deuxième thème du TKYDG. On va pour commencer cette thématique, on va découvrir ensemble les propos de Saïd Benrahma, qui était d'ailleurs d'humeur badine à l'issue de la victoire lyonnaise contre Brest, et on peut le comprendre, mais ça aussi dénote l'état d'esprit, parce que des fois, on avait des conflits. Pour nous, journalistes en tout cas, on a des fois des joueurs qui débarquent, qui font le métier, ils n'ont pas le choix, et c'est vraiment voilà, le minimum syndical. Là, il était heureux, il parlait avec tout le monde, il a pris le temps, etc. Il était vraiment très très content, et on sent qu'il est heureux d'être à l'Olympique lyonnais, et je pense que c'est aussi important, une donnée importante.
De faire venir des gens qui veulent venir, c'est bien.
On a su relever la tête, ne pas baisser les bras, et c'est le plus important. Tout le monde est concerné, et c'est super important pour le groupe. Même les entrants sont la plupart du temps décisifs à chaque match ces derniers temps. Il y a le 11 et les entrants, donc on est content. Le staff arrive à concerner tout le monde, à rester dans le coup, c'est ce que disait tout à l'heure Mehdi. Les entrants arrivent à amener de la fraîcheur, et c'est très bien. Tout le monde fait le travail, et dans un groupe, quand tout le monde travaille main dans la main, c'est important. Ça peut paraître une futilité. Ça peut paraître simpliste, ce discours-là, Nico. Mais force est de constater que justement, il est
Ça
primordial.
paye.
Ça paye. Et on voit que justement, l'Olympique lyonnais est capable de, même en étant mené, Mehdi, de revenir.
Moi, je pense que c'est un des ingrédients et il est important, mais il y en a d'autres. Il y a effectivement bon, le travail du staff, les changements tactiques, l'apport de joueurs qui est à chaque fois cohérent et pertinent. On a parlé du public tout à l'heure. On a connu des clubs dans la situation de l'OL avec un public qui n'était pas
C'était plutôt
derrière ses
contre,
joueurs, avec des banderoles ou
ouais.
avec un comportement assez compliqué. On a eu un public qui a toujours été derrière les joueurs, derrière tout le monde à les pousser. Il y a une somme d'ingrédients, on va dire que les planètes s'alignent pour l'OL et c'est tant mieux.
Nico.
Là, il parle beaucoup du vestiaire, mais je pense qu'en fait, c'est dans le club en général. De la colonne vertébrale jusqu'au monde sportif, en fait. Un président, un directeur sportif, Les as sont à leur place, Razik, je reprends ton expression,
mais c'est, prie, avec grand
mais c'est vraiment ça. Les joueurs travaillent, on a un objectif commun, ça faisait longtemps que ce n'était pas le cas, il y avait beaucoup d'objectifs individuels. Là, on a de nouveau un objectif commun au sein du vestiaire. Et puis, je pense que l'apport des nouveaux, tu l'as dit, Benrahma voulait venir, Matic voulait venir.
Oui.
C'est des mecs, ils viennent pour défendre les couleurs d'un club dont ils ont envie de défendre les couleurs. Et ils viennent pas parce que on les a transférés de là, de là-bas, et qu'ils n'ont pas de point de chute, et que c'est un choix par défaut. Non. Ces joueurs-là voulaient venir. Et ça, c'est vraiment le plus important, en fait. C'est comme ça que tu peux construire un projet avec des mecs qui veulent s'investir pour ton club. Parce que l'institution restera, selon moi, toujours plus fort que tout.
Toujours.
Et que n'importe quel individu.
Jérémy, qui nous dit la régie de Sache et son staff, c'est aussi l'intégration des nouveaux arrivants au mercato, et tout le monde a su trouver sa place dans le groupe. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu l'évoquais, Mehdi, et à juste titre, c'est que le staff fait le taf par rapport à ça, parce que souvent tu peux avoir des problématiques de nouveaux joueurs ou ceux qui ne jouent pas. Je pense à Lovren, on l'avait évoqué déjà sur ce plateau, ou à d'autres joueurs qui ne jouent pas. Si derrière tu maintiens l'état d'esprit et tu fais en sorte qu'il y ait une bonne ambiance, que tout le monde joue le jeu, ça change la donne.
En fait, je pense que c'est encore une fois, c'est les planètes qui s'alignent, parce qu'on est au plus bas. Je crois qu'il s'est pas trop trompé dans ses compos. Et il y a les résultats derrière, donc on ne change pas trop une équipe qui gagne. Et puis surtout, ceux qui sont un peu sur le côté, ben, c'est à eux de gagner leur place et d'attendre leur tour. Et ça facilite un petit peu, je pense, la vie en collectivité.
Et pour en parler avec un membre du staff, je ne vais pas le citer parce qu'on ne va pas le mettre mal à l'aise, mais il y avait ce côté aussi, à un moment donné, bon, on va faire le max, on va défendre. On va gagner à l'attaque, on y va, on n'a rien à perdre, on est des compétiteurs.
C'est l'OL.
Et c'est discours, mais c'est discours, on l'avait pas. Non, on l'avait plus.
Ben non,
l'avait
en fait, on se contentait d'encaisser son chèque, de s'aligner sur le terrain, mettre le maillot de l'OL, et on pensait que ça suffisait. Exactement. Mais c'est pas ça le football. Mm-hmm. C'est du travail, c'est d'être compétiteur, c'est repousser des efforts. Je pense qu'aussi, en termes de caractère de joueur. Benrahma, je ne le connais pas, mais des peu d'images que j'ai pu voir, c'est quelqu'un de jovial, c'est quelqu'un qui s'amuse. Il y avait Orban aussi, qui chambre, qui rigole. D'ailleurs, il a été un peu décrié au début, mais voilà, ils apportent de la bonne humeur, ils apportent de la joie de vivre. Et ça, c'est super important. Et dans les moments moroses, comme a pu connaître l'OL, d'avoir des gens qui sont positifs, qui sont heureux d'être là, qui sont heureux de faire leur métier, qui est l'un des plus beaux métiers du monde, surtout quand ça gagne, il y a de la joie de vivre et ça se transmet. Et je pense que s'il y a une connivence aujourd'hui entre le public et son équipe, c'est aussi parce que cette joie de vivre, elle est communicative et elle se communique. Les supporters sont contents d'encourager cette équipe-là, s'ils se retrouvent dans cette équipe-là, par l'humilité, mais aussi par rapport au comportement et au caractère de certains joueurs.
Très important ce que tu viens de dire, j'ai envie de rebondir. Il y a un message de Thierry Mangala hier après le match, il avait l'air super heureux alors qu'il n'a pas joué.
C'est vrai.
Ryan Cherki, c'est pour ça que je me retourne vers Mehdi.
Lovren qui a failli se blesser en fêtant la victoire alors que ça fait 3 mois qu'il n'a pas joué. Il a pris un coup en fêtant le quatrième but. Enfin voilà, et on voit, il y a une atmosphère qui se dégage.
Et je me retourne vers Mehdi parce que j'ai envie de penser que ce n'est pas grave. Tu as raison de le dire, Nico, et de t'exprimer. Ryan Cherki qui rate son action et on voit la casette. Qui applaudit, qui dit allez Ryan, c'est pas grave. Et les supporters effectivement, qui chantent Cherki, Cherki.
Bah c'est un nouvel état d'esprit et c'est ce qui participe aux victoires et au bon état d'esprit justement.
Ça m'en donne la chair de poule, mais parce qu'en fait,
bah oui, c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on veut.
Mais oui, c'est des émotions. Et le Gon qui vient de louper une occasion toute faite, plutôt que d'être sifflé ou d'être mis au banc, non, on l'encourage. Cherki, Cherki. Enfin, tu vois, on le porte en fait. C'est pas grave.
C'est pas grave. Continue, gamin.
Mais oui.
Tu vas avoir une autre action
et tu vas marquer.
Pouvoir marquer.
Évidemment. Et c'est ça, la beauté du sport, la beauté du foot à ce niveau-là.
Sandrou, la concurrence manquait, maintenant elle est existante, ils bossent pour gagner, leur place est titulaire, ils jouent en équipe pour le blason et non pour leur individualisme. C'est vrai qu'il manquait de concurrence. Hein.
Oui,
il faut du matos aussi. Hein.
Oui, c'est vrai.
Hein, l'état d'esprit,
quand t'es un stade,
je suis moyennement d'accord moi, par contre avec ça, parce que effectivement, il y a plus de nombre et plus de qualité depuis le mercato, mais c'est assez les mêmes équipes qui démarrent, c'est souvent les mêmes équipes qui démarrent, donc il y a un 11 qui s'est quand même dégagé.
Oui, mais avec de la concurrence et avec des
joueurs. Oui, mais on a rapporté de la qualité.
Oui, ils ont intégré le 11 et quelque part, les remplaçants ont un statut de remplaçant entre guillemets, et les titulaires ont un statut de titulaire. Donc, concurrence telle qu'il l'évoque, c'est plus quand on ne sait pas trop finalement.
On va parler de concurrence au poste de gardien, où ça fait du bien en taux. Après, pour les autres postes, on a apporté de la plus-value à cet effet.
La plus-value.
On a apporté de la plus-value. Benrahma apporte de la plus-value. Matic apporte de la plus-value. Il y en a certainement d'autres que j'oublie. Fofana, Nouama. Enfin, tous ces joueurs-là apportent de la plus-value à cet effectif. Maitland-Niles également.
Oui, Maitland-Niles. penalty,
il faut avoir du sang-froid. Des coronesses, pour pas dire, voilà. Il en faut à ce moment-là.
Je l'avoue, j'ai aimé l'attitude. Parce que c'est pas tout le temps comme ça. Hein. On s'envoie. Et là, on a senti que c'était même pour le collectif. Enfin, pour ce sens, encore une fois, on va pas surjouer. On sait jamais, c'est toujours fragile. On n'est pas là pour survendre, etc. Mais le côté, ouais, pour le collectif. Je vais pour faire gagner mon équipe.
On est plutôt juste. Quand c'est pas bien, on le dit. Et quand c'est bien,
j'ai eu ce ressenti-là. Tu vois, il pose le ballon, ce sang-froid. On le sent que c'est pas pour faire le beau, c'est pas pour ses
et
stats.
On sent que c'est lui qui est désigné.
Et c'est un spécialiste en plus.
Mais voilà, c'est un spécialiste. On sait pourquoi on lui donne le ballon. Quand c'est pas la casette, c'est Maitland Niles.
Je pense qu'ils sont tous dans l'état d'esprit en fait où personne n'a rien à perdre. D'où on vient et suivant les scénarios.
Ça aide.
Et je pense que ça aide. Ce que j'espère, c'est que ça sera jusqu'à fin de saison. Parce que maintenant qu'on est sur cette 7e place, qu'il faut la conserver, est-ce que ça va mettre un petit peu de doute? Il y a cette finale qui arrive ici aussi, est-ce qu'on va douter? En tout cas, jusqu'ici, l'impression que les joueurs donnent, c'est qu'on n'a rien à perdre. Donc ils ont l'air tous libérés, y compris dans un pénalty comme ça, la 98e.
Avec beaucoup quand même un sang-froid pour les tirs.
Ouais, c'est ça.
Tout le monde n'est pas capable de le faire. À l'entraînement, c'est facile de tirer, de faire une panenka.
Merci.
Mais pour le coup, d'aller le tirer.
Mais oui.
Après 15 minutes d'arrêt de jeu, des palabres, une tension de match.
Exactement.
Il faut avoir quand même cet sang-froid et de courage pour aller tirer un pénalty.
Je pense que c'est important pour la jeune génération, ceux qui pratiquent le foot, même au niveau amateur. C'est pour ça que je.
Mais c'est pas si facile qu'on peut le croire.
Statistiques, l'Olympique Lyonnais est l'équipe ayant remporté le plus de points après avoir été menée au score justement en Ligue 1 cette saison, 18. Pour vous, encore une fois, même si on l'a un peu évoqué, mais concrètement, est-ce que c'est Pierre Sage? Est-ce que c'est son coaching? Comment on peut expliquer qu'à chaque fois, l'Olympique revient en fait, enchaîne comme ça, est capable sur plusieurs matchs en plus de revenir?
Je ne sais pas si j'aime cette stat, moi, en fait.
Allez, explique-moi.
Parce que ça veut dire qu'en fait, on court après le score et qu'on est une équipe à réaction. Et je préférais être une équipe en maîtrise, qui maîtrisons le sujet et qui dominions dans l'idéal. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est une équipe à réaction et qu'on corrige les changements. Alors, ce que ce stat me fait interpréter, c'est que les changements de Pierre Sage corrigent une composition d'équipe qui nous fait perdre le match en début. Et que les nouveaux entrants, comme l'a dit Benrahma, sont décisifs et viennent changer le cours du match. Après, s'il y a une stratégie, enfin,
n'hésite pas, Mitch.
Moi, en fait,
on n'a pas d'accord.
Je suis pas d'accord. Je pense pas que les changements viennent corriger une compo qui était mal pensée. Je pense qu'ils viennent, valider un certain contexte, une évolution du score.
Une stratégie, comme j'ai dit la semaine dernière.
Une stratégie aussi de l'adversaire, hein, qui peut changer. Je pense que cette stat, elle est à l'image de la saison de l'OL, en fait, où on a démarré peut-être pas avec les bons coachs, on les a changés. On a démarré peut-être pas avec les bons joueurs, on les a changés. On était tout en bas et finalement on remonte.
Habillage débat.
J'aime trop ça.
Vas-y.
Non, mais après, c'est avec Pierre Sage, les 18 points. C'est depuis le début de la saison. Je crois qu'il y a 14 ou 15 points avec Pierre Sage. Non, ce que je veux dire, c'est que souvent, quand tu es. Alors, moi, j'aime beaucoup cet état d'esprit de pouvoir revenir au score. J'aime pas cette stat parce que ça veut dire qu'en fait, on est une équipe qui revient et on n'est pas une équipe qui domine et qui maîtrise son sujet. C'est ça que je veux dire.
Ouais.
Enfin, c'est ce que ce stat dit, en fait. C'est que veut dire qu'on revient beaucoup au score. Ça veut dire qu'on est mené et qu'ensuite, on réajuste pour pouvoir aller gagner les matchs. Alors, les entrants, c'est là où, par contre, en termes d'état d'esprit, je loue. L'état d'esprit des remplaçants ou des finisseurs qui viennent finir les rencontres et qui apportent un plus et qui viennent même gagner les matchs. Donc les Cherki, les Fofana ou même Orban quand ils rentrent, voilà, ils apportent un vrai plus. Donc ça, c'est nouveau aujourd'hui à l'OL. Par contre, j'aimerais que cette stat, elle soit pas telle qu'elle est, parce qu'on devrait pouvoir, de par notre jeu et de par ce qu'on impose et de par ce qu'on propose, maîtriser les matchs et maîtriser nos rencontres, voilà, simplement.
Ouais, je pense que ça sera peut-être pour l'année prochaine avec un contexte différent. Aujourd'hui, voilà, on part de loin, on l'a déjà assez dit, on a un contexte qui est difficile.
Je suis gourmand.
Il faut qu'on se contente de ce qu'on a.
Pardon. Non, je ne vais pas le dire sur la gourmandise de Nicolas. Dit, je suis gourmand.
Non, mais il a raison, c'est la petite vient en mangeant. On cherche la quatrième ou la cinquième place.
Ouais, c'est vrai.
Molo.
On est ambitieux.
Il a dit, hein. Les desserts, ça suffit les desserts. Infographie des matchs justement où l'Olympique Lyonnais était mené et a finalement gagné pour voir un petit peu, et c'est quand même un Noël renversant. Après, je comprends ce que tu veux dire aussi, Nico, j'ai envie de rebondir, c'est de se dire, bon, très bien, l'Olympique Lyonnais est renversant, revient et c'est 3 points derrière, Mais attention, parce que jusqu'à quand, après, ça peut être compliqué. Ce sera pas toujours le cas, en fait.
Et après, si tu regardes, hormis Brest, c'est des équipes de bas de tableau.
Donc, contre...
C'est des équipes de bas de tableau. Et puis, on prend des buts alors qu'on peut peut-être marquer avant eux.
C'est vrai.
Et on prend des buts, alors... Je ne vais pas dire contre le cours du jeu, mais pas forcément sur des actions qui nous mettent vraiment en danger ou qui nous mettent vraiment en déséquilibre. Donc pour moi, ça reste aussi anecdotique. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne maîtrise pas. Mais voilà, 1-0 Montpellier, 1-0 Nantes, 1-0 Metz, on n'a pas renversé grand-chose non plus.
Ils sont exigeants, en fait. Hein.
On aime le foot, on veut un jeu où on a le ballon, où on domine notre adversaire.
Mais vous avez raison.
Pour le coup, face à Brest, quand tu es mené 3-1, il faut des vraies forces de caractère, vraies forces mentales. Parce que c'était pas les autres équipes, pour le coup, sans leur manquer de respect à Metz, à Toulouse ou à Nantes. Mais en tout cas, Brest, c'était d'un autre calibre, aussi bien par le jeu proposé que par l'adversité. Et donc, je pense que c'est une réelle performance qu'a réussi l'OL hier soir.
Il y a Jacques qui s'interroge et qui dit que ce sera compliqué de battre Paris deux fois. Et Mehdi l'a un peu évoqué justement tout à l'heure, mais sur le côté les choix en fait. Hein, ça veut dire sur.
Est-ce qu'on calcule c'est pas le même contexte. La Coupe de France, c'est pas le même contexte que le championnat.
Je me retourne vers toi, Nico. Je te regarde les yeux dans les yeux. Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est compliqué pour toi ou pas? Lorsque tu as deux adversaires, tu as dit que c'est pas le même contexte.
C'est pas le même contexte. Une finale de Coupe de France,
c'est. Tenté,
tu l'abordes pas de la même manière.
Faire des choix de... ou pas. De prendre des risques, pas du tout.
Je sais pas, très franchement, encore une fois, Fofana, il l'a mis parce qu'il a fait et une bonne rentrée et une bonne semaine d'entraînement. Donc voilà, si c'est ça son leitmotiv pour prendre ses décisions, forcément, on n'a pas les tenants et les aboutissants et on peut pas faire, nous, on peut pas présager. Par contre, je pense qu'il y a rien d'anodin à reconduire le même 11 face à un même adversaire. Parce que des fois, tu remets le même 11 parce qu'ils peuvent être revanchards. Il suffit qu'on perde ou même qu'on prenne une claque ou même sans prendre de claque qu'on perde. Tu as envie de remettre les mêmes pour qu'ils soient revanchards et que du coup, ils se servent de cette défaite pour pouvoir aller remporter la finale. Enfin voilà, il y a plein de contextes, il y a plein de scénarios possibles. Il n'y a qu'une vérité, c'est que c'est Sage qui prendra, avec son staff, qui prendra la décision d'aligner un 11. Je pense qu'il mettra le meilleur 11 possible pour aller remporter ce match-là. Et la finale, c'est un tout autre match. Il peut y avoir des suspendus, il peut y avoir des blessés, il peut y avoir... Voilà, il y a encore 5 semaines à tenir, ou 6. Il peut se passer plein de choses.
Il y a un commentaire qui a été posté sur le site olympique.com. On est vraiment pris par le temps. Hein. Je vois pas mal de messages aussi passer, que ce soit sur X, ex-Twitter, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch. Juni38... Jusqu'où peut aller une équipe managée par Pierre Sage? Franchement, je ne sais pas. Je compte sur Textor pour conserver ce coach pour la saison prochaine, évidemment, en lui donnant une équipe encore plus compétitive. Pour cela, je ne chamboulerai pas l'effectif, mais apporterai juste quelques retouches et compléments, notamment en défense centrale, où on est un peu juste en cas de blessure d'un de nos deux titulaires. Et j'ai envie de prolonger la question, la remarque, en tout cas de Juni 38. On a vu, notamment dans d'autres clubs, deux coachs qui ont été prolongés, que ce soit à Lens ou que ce soit à Rennes. Deux clubs qui sont en difficulté. Est-ce que pour vous aussi, la gestion du cas Pierre Sage, en tout cas, de dire « il fait la saison, il finit la saison et on verra plus tard », est-ce que pour vous, finalement, ce n'est pas bénéfique pour l'Olympique Lyonnais, pour le collectif, où tous les joueurs se disent « voilà, l'entraîneur, on ne sait pas trop, on est tous ensemble sur le même bateau, à égalité, et on va au bout du projet pour justement cette fin de saison, avec cet objectif que s'est fixé le vestiaire d'atteindre une Coupe d'Europe ». Ou pas du tout, là, c'est un peu tiré par les cheveux, ce que je viens de dire.
Non, on peut l'entendre, que le laisser dans l'expectative, et ça le maintient un peu sous pression, ça lui permet de continuer de travailler. On sait que un joueur comme un coach, quand on a 3 ans de contrat devant nous, on peut tomber dans un certain confort, dans une certaine routine. Là, on le maintient sous pression parce qu'il a encore besoin d'aller chercher son contrat, il a encore besoin d'aller chercher les objectifs pour pouvoir prétendre à la place de titulaire. Après, avec ce qu'il propose, je trouverais inconcevable que l'OL le maintienne pas à son poste et que le prolonge pas. Par rapport à ce qui est proposé, par rapport aux résultats, par rapport à l'atmosphère, par rapport à tout ça. Après, on n'est pas dans le secret des dieux et on n'est pas décideur, malheureusement.
Mehdi ?
Moi, je crois que c'est joué depuis un moment. Hein.
C'est-à-dire ?
Je pense qu'il va continuer. C'est impossible de... Enfin, humainement, je trouverais compliqué de
ne pas lui... Ouais, mais on est dans du business, malheureusement.
Non, mais dans du business, mais... Alors, pas que lui, hein. Il y a le recrutement, il y a beaucoup de choses qui font qu'il évite une catastrophe industrielle.
On est bien d'accord.
Donc, c'est du business, ça aussi.
Non, mais le fait de ne pas l'avoir tout de suite conforté pour la saison prochaine, parce qu'on fait le comparatif avec, on l'a dit, Lens et Rennes, et on voit que ça se passe moins bien.
Après, ça se passe moins bien.
À l'instant T.
Lens est 6e, Rennes est 9e ou 8e.
À l'instant T, dans la dynamique.
On était pas, ils n'étaient pas derniers comme nous, ça se passait vraiment pas bien.
J'entends, dans la dynamique, je l'entends bien.
Je pense que chaque chose a son temps. Ils sont aujourd'hui, pour moi c'est joué d'avance, mais pour moi tout le monde est concentré. Bon,
c'est pas la priorité peut-être.
Tout le monde est concentré dans un quotidien où il y avait un maintien à aller chercher, il y avait une finale à aller chercher. Aujourd'hui on est européen. Je pense que c'est pas le temps de ces discussions, mais pour moi pour le coach comme pour la direction de l'Olympique Lyonnais, c'est Sage qui redémarra avec des moyens, j'espère. Conséquent et avec
image.
Des ambitions.
Et à son image, ouais,
avec des ambitions, parce que là aujourd'hui, on va dire qu'on sauve une saison qui aurait pu être catastrophique, mais dès l'année prochaine, regardez là, en 2 semaines, on veut la 5e place, on veut des matchs, on veut des matchs maîtrisés, pas renversés. L'année prochaine, on va lui demander s'il est européen de bien figurer en Europe. On va lui demander un certain nombre de choses.
Il le sait. En plus. Donc, il joue le jeu d'ailleurs.
Et est-ce qu'il a l'expérience? Est-ce qu'il a la maturité? Est-ce que... C'est pour ça qu'en fait, je ne suis pas aussi sûr que Mehdi sur le fait que c'est déjà décidé. Je pense qu'en interne, il doit y avoir beaucoup de discussions et tout dépendra de la place à laquelle finit l'OL. Je pense que si on est européen, en interne, ça doit chauffer dans les têtes pour discuter. Je ne dis pas qu'ils ont raison.
Oui, voilà.
Je dis que ça, je dis que en interne, je pense que ça doit discuter le pour et le contre. Pour est-ce qu'on a besoin d'un, est-ce qu'on veut un entraîneur qui a d'expérience de la Coupe d'Europe? Enfin voilà. Encore une fois, on n'est pas dans le secret des dieux. J'aimerais que la décision soit déjà prise. J'aimerais qu'on conserve Pierre Sage par rapport à ce qu'il propose, par rapport à qui il est, tout simplement, et à ce qu'il a fait de cette équipe-là. Mais je pense que c'est plus compliqué que ça.
Je pense que la direction de l'OL, elle est quand même vaccinée par les soi-disant expérimentés de la Coupe d'Europe.
Ah, mais aiment bien ce qui, il y en a certains qui aiment bien ce qui brille quand même. Alors peut-être pas John Textor, mais il y en a peut-être d'autres qui aiment bien ce qui brille quand même.
Ouais. Bah ça brille là. Non?
Oui, par les résultats.
Ouais.
Mais c'est pas bling bling.
Allez, c'est le temps 19. Dernier thème. C'est le temps 19. Franchement, normalement, il nous reste 5 minutes pour faire 1 heure.
Moi, ça me va. Hein. Je préfère ce qui n'est pas bling bling.
On va sûrement dépasser. Mais c'est le temps additionnel. Il est l'heure, il est temps de passer au dernier thème. Oui, de TKYDG. Lyon, seul contre tous, Nico Puy-de-Bois, il a bien connu ça à l'époque même des titres, à l'époque Nico, l'Olympique Lyonnais.
Ça ne change pas, ça ne changera jamais.
Voilà, pour la jeune génération, pour toi, ça ne changera jamais.
Non, on ne laisse pas indifférent, et c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'on dérange, ça veut dire que ce qu'on fait c'est bien, c'est mieux. Jusqu'il n'y a pas si longtemps, tout le monde était content de notre sort. Ah, l'OL est en difficulté, l'OL ne roule pas sur la Ligue 1, l'OL a moins d'influence et tout ça. Et dès l'instant où on revient dans le game, j'ai envie de dire, ça y est, l'arbitrage nous aide, l'arbitrage si. Dans l'équipe, il y a une page complète sur l'arbitrage. Enfin, à un moment donné, tu le fais que pour Lyon et pas pour les autres. C'est bon, réveille-toi. Ça s'est passé du début de la saison. Donc, enfin, voilà, mais c'est bien, ça nous donne de la force, ça nous galvanise. On est lyonnais, on l'assume, on est fiers de l'être et on vous enquiquine.
Ouais, je suis un peu d'accord. Mais on aime bien déranger. On aime bien déranger. Je pense que
c'est très lyonnais.
On a dérangé Saint-Etienne à l'époque où il tutoyait les sommets. On a dérangé Paris-Marseille qui voulait avoir la primeur du championnat de Ligue 1. On a développé le féminin pendant que personne n'y croyait. On a fait quand même pas mal de choses ici à Lyon et c'est ce qui embête un peu tout le monde. C'est notre côté précurseur, notre côté avant-gardiste. Et que ça continue, c'est bien.
Effectivement, le modèle lyonnais à Lyon, historiquement, Nico, c'est l'alternative, le contre-modèle. Alors d'affronter le Paris Saint-Germain version Qatar, c'est ce qu'on appelle la lyonitude. Hein. C'est une manière de faire différente.
On
la
l'aime,
capitale, et c'est une ville forte économiquement, à Lyon en tout cas.
Indépendante.
Intellectuellement indépendante. Et les Lyonnais sont chauvins, fiers de leur cité et ne se laissent pas faire.
Mais on le voit.
Jamais faire.
On le voit, il n'y a pas de rappeur lyonnais très célèbre, il n'y a pas d'acteur lyonnais, alors à part Clovis Cornillac, mais enfin voilà, je pense à Célig, je pense à. On avait reçu notre ami.
Tu trouves? Je ne sais pas.
Ouais,
j'avoue que je ne peux pas. Je sais.
Quel
domaine, Nico?
Dans le rappeur.
Le rappeur.
Qui était Cassius Belli.
Cassius Belli.
Qui était venu. Ah là, désolé, en plus.
Mais t'as raison,
Bah voilà, tu vois, il y a deux, trois. Voilà, il y a des choses comme ça qui font que.
C'est notre ami.
Mais c'est notre côté lyonnais, c'est notre côté rebelle, c'est voilà, Paris la bourgeoise. On est toujours le bourgeois de quelqu'un d'autre et le pauvre d'un autre, mais en tout cas, voilà, on assume pleinement qui on est, notre état d'esprit, notre ADN. On aime être lyonnais.
Je salue Mohamed qui regarde cette émission en faisant son footing. Donc bravo. Je ne sais pas s'il parle à Tédor, s'il est sur les berges du Rhône, mais en tout cas bravo à lui. Nous, on a besoin avec Nico, mais on n'y va jamais.
Faire quoi?
Footing. Footing. Ouais. L'équipe, encore le papier, ça va. Libération, par contre, c'est une honte, nous dit Stéphane, je crois.
Si ouais, mais qui lit Libération encore aujourd'hui?
Libération, surtout
L'équipe, j'ai vu passer aujourd'hui, oui, j'ai pas lu l'article, j'ai vu la page complète sur l'arbitrage. J'ai dit, je vais pas leur donner la joie de lire ce truc là. Voilà, simplement.
Larqué, Roten.
Je pense que je vais le lire quand même pour m'informer, pour pouvoir les critiquer la semaine prochaine. Mais non, je voilà, non. Et ben voilà, ils sont pas contents. C'est un vrai plaisir.
Il est énorme, Nico Puybois. Allez, tableau des derniers matchs. C'est possible, je suis désolé parce qu'on est vraiment pris par le temps. Tableau des derniers matchs pour... voilà, c'est un peu notre Mehdi. On explique à Mehdi à chaque fois qu'on en a invité, j'explique un petit peu. À gauche, c'était pour l'objectif maintien. À droite, c'était si l'Olympique Lyonnais était un tantinet ambitieux, et avec, on l'a dit déjà, cette victoire contre Brest, et puis après le PSG, Monaco, Lille, Clermont et Strasbourg, et en cas de succès, peut-être que l'Olympique Lyonnais pourra disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Voilà, d'où ce tableau, ce petit calendrier. Et puis un tweet, non, c'est pas un tweet, je trouve que c'est un commentaire, si je ne m'abuse, qui était posté sur le site olympiquelyonnais.com. Je mets un peu dans le rouge la régie, mais on est pris par le temps, Nico. Hein. C'est comme ça, le temps additionnel, non?
Le temps additionnel, on ne sait pas quand est-ce qu'il finit, on l'a vu hier.
Bamaki, je pense que l'OL dérange et que c'est le fruit d'une communication désastreuse d'Olas qui chouinait tout le temps, qui allait voir les arbitres à la mi-temps, qui se vantait d'avoir des relations à la Fédé. Tout cela a créé un mythe complètement absurde. Et tous les autres clubs se sont ainsi liés contre l'OL, alors que je suis persuadé qu'on a largement perdu plus de points que gagné avec l'arbitrage cette saison. Oui et non, parce que...
Je l'entends, ça.
Tu l'entends, mais oui et non aussi.
Je pense que c'est aussi parce qu'on a roulé sur la Ligue 1 pendant 7 ans et que ça a dérangé.
C'est peut-être plus ça.
En
hein.
plus, sportivement, voilà. On a roulé sur la Ligue 1.
Non, c'est ça, je suis d'accord. D'accord.
Donc entre Olas, qui était dérangeant et qui cristallisait contre sa personne et contre le club, du coup, la France entière, de la line de la France entière, on les écrasait. J'ai des supporters, pas que de Marseille ou de Saint-Etienne, des supporters de Monaco qui me disent « Vous nous avez enquiquinés pendant 2-3 ans les premiers titres. » Enfin voilà, on les a dérangés parce qu'on les battait sportivement. Voilà.
Voilà, sans être parano.
Bon, simplement.
Les faits sont têtus.
Les faits sont têtus. Et on a roulé sur la Ligue. Hein.
Voilà, et donc forcément, tu déranges lorsque tu es performant. On me souffle dans l'oreillette qu'effectivement Jean-Michel Aulas était présent hein, lors de ce succès de l'OL contre Brest et qu'il a même accordé une interview à Prime Video. Et donc ça rappelle l'époque effectivement.
Il ne peut pas s'empêcher.
La présidence Aulas.
C'est bien. C'est,
je oui, pas, oui, j'ai pas dit le contraire.
Ça reste quand même un monument. Un monument du football lyonnais et je préfère ça que ce qu'on a pu voir là cet hiver entre lui et la direction.
On est bien d'accord.
C'est beaucoup mieux.
Allez, c'est notre cher Roland qui nous regarde depuis Rabat, je crois, au Maroc. Bravo Nico, ça fait du bien d'entendre quelqu'un de chauvin. Il y en a marre de ces journalistes parisiens. Donc voilà Roland depuis Rabat qui te regarde.
Merci Roland, on est bien d'accord.
Comme on parle du Maroc parce qu'on veut pas de problème diplomatique. On va aussi saluer Azine qui nous regarde depuis Béjaïa. Ça me tient un peu à cœur. Oui. Et puis, regarde cette émission. Et d'ailleurs, il collectionne beaucoup les survêtements de l'Olympique Lyonnais. Je crois qu'il a tous les survêtements de l'Olympique Lyonnais à Béjaïa en Kabylie. Merci, messieurs. Merci à toi,
Merci pour l'invitation.
Voilà, Vénitieux, on l'a dit. Hein,
Vénitieux, la routine.
La routine.
La routine d'un club amateur avec ses hauts, ses bas, oui. Ses difficultés.
Formateur.
Voilà. Le formateur. Le
formateur, ouais, c'est pour formateur, ça. Ouais, c'est intéressant. Formateur. Avec un projet pédagogique.
Avec un projet qui se renouvelle tous les 2-3 ans. On avance, on construit, on a digéré une fusion et on va commencer à avoir de l'ambition d'ici un an ou deux maintenant. C'est pas facile, une fusion de deux clubs historiques. Voilà, ça suit son cours.
Où on forme aussi bien les hommes que les joueurs
Surtout les hommes maintenant.
Merci.
Surtout les hommes.
C'est important.
Et n'oubliez pas de liker l'émission. Merci beaucoup Jérémy, effectivement sur YouTube. C'est sympa de toujours mettre un pouce. Nico, tu l'as fait ça derrière ou pas? Il est has-been Nico. Il est has-been.
Je vais aller voir.
Voilà. Bon Nico, faut progresser quand même. Hein, liker, tout ça, Twitch. Bon, c'est pas grave, je vais t'expliquer tout à l'heure. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous lundi prochain avec le grand plaisir, je l'espère, pour un nouveau numéro de Tant qu'à Radégon.